With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Capture Mag, le podcast, épisode 26, vous ne rêvez pas, on est de retour après 10 mois de hiatus, c'est bien notre jingle, on est là, on est presque tous là en fait, il y a mon ami Rafik Djoumi, salut Raph.
Salut Steph.
Mon ami Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Steph, salut Raph.
Salut Julien.
Il manque notre grand ami Arnaud Bordas hein, qui est coincé parce que...
Salut Arnaud.
Salut Arnaud.
Nice est en quarantaine, voilà. En ce moment, je pense que. En fait, on enregistre maintenant, mais peut-être que dans le futur, ça sera le cas.
Il a le virus, le virus du Sud.
Voilà. Et nous sommes de retour, en fait, pour parler d'un grand cinéaste. On s'est dit qu'en fait, on allait peut-être un peu se rattraper de l'épisode précédent, surtout pour Rafik, pour pas qu'il se barre, en fait, et qu'il dise putain, vous avez encore choisi Andrew Bartoviak ou je sais pas qui, en fait. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va parler d'un grand cinéaste qui est Michael Mann. Voilà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de, comment dire, on va peut-être expliquer un petit peu où on était pendant un an, en fait, et pourquoi c'est moi qui présente finalement aujourd'hui, moi Stéphane Moïsakis qui présente en fait cet épisode, c'est un petit peu exceptionnel, enfin, moi je l'espère parce que c'est pas mon rôle à la base, mais voilà, alors, pendant deux épisodes, et on les en remercie en fait, on a travaillé avec Binge Audio sur l'épisode 24 et 25, les épisodes Shane Black et Michael Bay que vous pouvez encore écouter. Sont toujours disponibles, et c'était mon ami Thomas Rozek qui le présentait, et finalement, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc on le salue bien.
Salut Thomas.
Ouais, salut.
Voilà.
Ça va?
Et imagine, il répond. Et en fait, du coup, on s'est un petit peu retrouvé dans plein d'autres projets. Bon, vous avez vu Stéroïdes, tout ça, etc., etc. Julien bosse sur d'autres trucs aussi, Rafik aussi. Et donc, on revient aujourd'hui avec donc un format peut-être un petit peu spécial. C'est-à-dire, on reste sur l'idée qu'on va enregistrer un épisode entier de 3 heures. Mais on va vous le présenter différemment. Donc ne paniquez pas si vous voyez en fait que votre lecteur de podcast, je sais pas comment on appelle ça, enfin votre appli en fait nous vous affiche qu'à peu près une heure et quart de podcast, c'est tout à fait normal. On a décidé en fait de diviser chaque podcast en trois parties pour vous les présenter de manière plus régulière. Voilà.
Vous donner le temps de les digérer.
En plus, ouais.
C'est tellement.
Non mais je sens. Je
de revoir les films
aussi. Ouais. Ouais. Et donc si tout va bien, donc chaque partie en fait sera diffusée tous les à peu près 10 jours. Voilà. Donc première partie aujourd'hui, seconde partie dans 10 jours et puis la troisième partie 10 jours encore après. Voilà. Et en fait on va se lancer directement dans le vif du sujet maintenant et on va parler de Michael Mann. C'est Rafik qui va nous présenter le bonhomme. Alors, Michael Mann, Rafik.
Alors, assez succinctement quand même, parce que la biographie d'origine n'est pas forcément passionnante. Michael Mann est né le 5 février 1943 à Chicago. Il vient...
À quelle heure ?
Je crois qu'il était 7h38.
C'est bien ce que je pensais.
Il vient d'une famille d'émigrés juifs ashkénazes. Donc, son nom complet étant Michael Kenneth Mann, M-A-2-N, donc... qu'on pourrait croire être un nom allemand, mais ça n'est pas le cas. C'est un enfant a priori multitâche, qui s'intéresse déjà à beaucoup de choses et qui est un peu presque éparpillé d'une certaine façon, des choses qu'on retrouvera dans sa carrière, hein, c'est ce côté multitâche, qui va beaucoup s'intéresser à l'histoire, la philosophie dans ses premières années adolescentes, mais qui va aussi... lorsqu'il va, il va se diriger vers des études de littérature, English classes, mais en même temps prendre des options cinéma, juste pour passer le temps. Et il va être très marqué par deux visions de films. Le premier, c'est un film muet de Pabst qui s'appelle La rue sans joie, qui va apparemment lui faire exploser le crâne. Et le deuxième, selon ses propres termes, c'est le Docteur Folamour de de Kubrick. Et donc, lui qui se fait...
S'il vous plaît, on peut peut-être juste un peu développer là-dessus, parce que ce qui est important, il me semble, pour le Dr. Follamour, ce qui lui plaît, en fait, c'est qu'il comprend avec ce film qu'on peut avoir une vision extrêmement personnelle, un discours, voire un peu atypique, à l'intérieur d'une enveloppe, finalement, totalement accessible et très populaire.
Tout à fait. Sa déclaration de l'interview, c'était... parce qu'à l'époque, le Hollywood de l'époque, c'est une machine à fabriquer des films. Sa déclaration était qu'il comprenait qu'on pouvait faire des films à Hollywood qui n'étaient pas forcément Les Sept Femmes de Barbe Bleue, qui était la comédie musicale la plus rose bonbon qu'on puisse imaginer, Seven Brides for Seven Brothers, je crois, donc c'est le titre original, et qu'on pouvait parler de soi et de quelque chose qui nous est très personnel à travers un cinéma grand public, puisque Dr. Follamour est un grand succès et un film très public, quoi. Donc ça va d'une certaine façon le faire dévier de ses études. Il va se retrouver en Angleterre à intégrer une école de cinéma qui est alors je me rappelle plus du nom de l'école en question, la London Film School. Donc je crois qu'on est en 64-65 à ce moment-là, donc c'est vraiment le swinging London des 60s qui l'accueille, dans lequel il va donc faire des études très, très axées cinéma européen pour le coup.
Ce qui est intéressant, parce que voilà, ça va s'en ressentir dans son cinéma.
Exactement.
De toute façon, pendant les années.
Une sensibilité politique aussi qui va le détacher un peu des États-Unis. L'Europe de l'époque est très clairement anti-Vietnam, et ils n'ont pas besoin d'aller défiler dans les manifs, dans la rue pour le montrer, quoi. C'est vraiment quelque chose de totalement accepté. Et en plus, pour faire bonne mesure, il va se retrouver en 68 à Paris à filmer en gros la Révolution, quoi. Donc le fameux mai 68, dont il tirera des images qui vont lui permettre ensuite de composer un document qui s'appelle Jeune Puri, qui gagnera le prix du jury à Cannes en 1970. À Londres, c'est aussi l'époque où les boîtes de com se lancent dans l'expérimental, dans tout au niveau de la publicité, où il y a beaucoup de mecs qui émergent, hein, les Alan Parker, Adrian Lyne, tout ça, c'est à peu près à cette époque-là qu'ils vont commencer à se faire remarquer. Il va fréquenter ces gars-là, ça va aussi le sensibiliser à la prise de vue et à l'efficacité par l'image. Il va retourner aux États-Unis après un premier divorce en 71 et se lancer en fait dans un road movie, un documentaire road movie. Il va traverser les États-Unis pendant plusieurs mois et donc pour en tirer un film qui s'appelle 17 Days Down the Line, où en fait il présente différents personnages qui représentent chacun des corps de métier, en fait. Ils sont pas forcément identifiés en tant que personne, mais ils représentent presque leur corps de métier.
Je peux peut-être ajouter petit truc, hein, si tu permets. C'est juste qu'avant de retourner aux États-Unis, pour éviter aussi de partir au Vietnam, il monte en fait sa propre boîte de production en fait en Angleterre avec rien du tout. Hein. C'est juste vraiment une
boîte postale.
Une boîte postale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire du boulot de sous-traitance, notamment pour la Fox, parce qu'il y a beaucoup de studios américains qui sont en train de tourner en fait aux États-Unis. Il y a déjà des systèmes de crédit d'impôt ou de subventions en fait qui favorisent en fait le tournage des grosses productions américaines en Angleterre. Et en fait, je pense que ça va être important pour la suite de sa carrière à noter en fait ça, c'est que Michael Mann va vraiment apprendre en fait sur le terrain ce qu'est la fabrication d'un film. C'est-à-dire que tout ce qui est école et notamment ses premiers films lui apprennent de façon hyper théorique comment agencer les images, la signification des images. Et d'ailleurs, ce sont des courts-métrages que moi je n'ai pas vus, mais Mann lui-même en parle. Il n'a pas beaucoup d'ailleurs d'estime aujourd'hui pour ses premiers courts-métrages, mais qui sont des trucs un peu avant-gardistes, comme le suggérait déjà Raph. Et par contre, en fait, il va y avoir cette autre facette en fait, de la personnalité de Michael Mann qui va aussi se construire là, qui va être de rentrer dans le cœur même de qu'est-ce que c'est la fabrication d'un film, comment tu gères un budget, comment tu gères un studio, et où part l'argent aussi. Et ça va être, je pense, très très important et très formateur dans la suite de sa carrière.
Oui, tout à fait. Et donc à l'époque, le grand vortex de tous ces jeunes aspirants cinéastes, etc. Bien sûr, on a l'exemple du Nouvel Hollywood, mais c'est surtout ceux qui ont percé d'une certaine façon. Ça reste la télévision qui continue à les absorber.
Peut-être une petite note en fait pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent bien la carrière de Michael Mann. On sait effectivement qu'il a débuté dans la télévision, on sait qu'il a fait beaucoup de ses classes là-bas, mais c'est pas quelque chose dont on va parler forcément en fait, de manière... Parce que nos podcasts sont faits d'une manière où en fait, on part du premier jusqu'au dernier film dans un ordre chronologique, et c'est vrai qu'on a conscience qu'il y a certaines séries télé qui sont faites entre certains films, et on va pas forcément en parler de cette manière-là, on va vraiment parler du cinéma de Michael Mann à proprement parler. Et on fait cette intro sur la télé puisqu'il vient de là effectivement.
Effectivement, oui, voilà. Il va quand même y passer presque une décennie quand même. Et puis surtout, ça va compter pour son affirmation en tant que cinéaste. Ça sera un marchepied indispensable. Mais en gros, c'est un scénariste et occasionnellement producteur qui s'appelle Robert Lewin qui va le faire entrer à la télévision. Et le faire bosser sur une série qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle Police Story, que moi-même je ne connais qu'à travers la magnifique musique qu'a composée Jerry Goldsmith à l'époque, voilà. C'est une série de Joseph Weinbaum qui a eu au moins 95 épisodes. Il va également collaborer à trois épisodes de la première saison de Starsky Hutch, ainsi qu'un épisode de la deuxième.
C'est marrant parce que d'ailleurs, en fait, c'est des épisodes dont on peut reconnaître un peu sa patte, en fait, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un épisode où Starsky est undercover et en fait il devient drogué, ou c'est Hutch qui est drogué, je sais plus, et en fait voilà, il y a des trucs, c'est beaucoup plus noir et sombre que les épisodes habituels, en fait.
Et je crois qu'il y a un de ces épisodes qu'il a écrit pour Starsky et Hutch qui deviendra d'ailleurs le pilote, en fait, un peu par défaut.
C'est aussi un truc avec un tueur en série, je crois, qui tue une des copines de Starsky, je crois.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi son marche-pied quelque part sur le film de Buddy Movie Cops, qui va être très important, dont on va reparler après, parce que c'est une dynamique en fait sur laquelle il va profondément travailler Michael Mann, et qui lui vaudra quelques frictions avec un autre grand cinéaste. Ça, ouais. Ça sera pour la suite.
Ouais.
Et donc il va faire ses armes de scénariste sur ses multiples projets télévisuels. Il y en a pas mal. Mais c'est paradoxalement le cinéma qui va lui permettre de s'affirmer véritablement à la télévision. Puisqu'il va collaborer sans être crédité à l'adaptation en film du roman d'Edouard Bunker, voilà, qui s'appelait Aucune bête aussi féroce, merci Stéphane, qui va en fait être adapté sous le titre Le Récidiviste, avec Dustin Hoffman, Straight Time, tout à fait. Alors, Le Récidiviste. Voilà, vous le connaissez forcément comme le film où Dustin Hoffman a la moustache, si vous avez vu le grand détournement. Donc c'est un film d'Ulgrosbar avec au scénario Alvin Sargent, qui est aussi un réalisateur. Donc Jeffrey Boehm qui a beaucoup tourné ensuite. Et bien sûr, Edward Bunker, qui est ce mec qui a été pratiquement élevé par le système pénitentiaire américain depuis son jeune âge et qui a vraiment écrit sur sa condition.
Et auquel Michael Mann fera souvent référence, en fait.
Et voilà, et pour cause, puisque donc pour son travail de réécriture, il doit rendre régulièrement visite à Bunker en prison. Et il va complètement s'imprégner de l'atmosphère de ces prisons-là, et ça va le fasciner, parce que pour lui, il a l'impression de découvrir un microcosme de la société américaine, en fait, avec les divisions en classe raciale, voilà, entre les white suprémacistes d'un côté, les blacks de l'autre, les gangs latinos, etc. Et où finalement, voilà, il dira, c'est tous les problèmes de notre société, mais sous stéroïdes.
Une caricature, aussi, ouais, parlera, ouais, de termes de caricature, en fait, sur la façon dont ils ont de se réapproprier les codes sociaux.
Et donc ça va être central, en fait, dans le développement d'un projet qui est un récit qui a été écrit par le scénariste Patrick Nolan et qui a été repéré par le comédien Peter Strauss, qui à l'époque, alors Peter Strauss, il avait fait ses débuts au cinéma dans Soldat Bleu, mais sa carrière cinématographique n'était pas vraiment développée. C'est surtout la télévision qui l'a fait son beurre dans les années 70, notamment dans la série Le Riche et le Pauvre. Mais donc il était souvent dans les téléfilms de prestige des chaînes américaines dans les années 70, et tombe en arrêt sur ce récit qui s'appelle The Jericho Mile, qui est un récit qui se passe entièrement en prison et sur lequel Mann est appelé à contribuer en tant que scénariste. Et le boulot de Michael Mann sur le scénario de The Jericho Mile va tellement plaire à Strauss que finalement il voudra que Michael Mann le réalise, quoi, tellement il sent la maîtrise du sujet. Donc The Jericho Mile va devenir le téléfilm qu'on connaît en France sous le titre Comme un homme libre. Donc avec Peter Strauss, et qui deviendra, parce que le film va sortir en salle en Europe, qui deviendra presque le premier film de Michael Mann, en tout cas.
Un peu comme Duel avec Spielberg.
Exactement, ouais. Tout à fait. C'est donc un téléfilm qui se passe entièrement donc, en tôle, qui raconte brièvement donc, l'histoire d'un prisonnier qui s'appelle Larry Murphy, qui est totalement obsessionnel dans l'idée de... Enfin, qui passe sa journée à courir, en fait, à faire le tour de la prison en courant. Son voisin de cellule, c'est un black qui s'appelle Stiles. Et c'est pratiquement son seul contact avec le monde. Il est totalement étranger à tout ce qui se passe dans cette prison dont le téléfilm nous détaille justement l'organisation complexe, en fait, les interactions complexes. Son ami, en fait, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, va se retrouver en bisbille avec les white suprémacistes qui vont le baiser, etc. Il va les dénoncer et se faire tuer. Et notre héros, lui, va commencer à être repéré par un journaliste qui est sur place, en fait, qui fait un reportage sur ses prisonniers et qui a repéré ce mec bizarre qui passe son temps à courir, jusqu'au jour où on va avoir l'idée de le chronométrer et de découvrir qu'en fait il fait un mile en moins de 4 minutes, ce qui n'est pas le cas de la plupart des grands champions de l'époque. Et il va y avoir cette idée de l'entraîner. Pour pouvoir lui permettre de participer aux Jeux Olympiques. Et donc tout le film, c'est un peu la lutte obsessionnelle de ce mec pour sortir de sa condition et à travers sa participation aux Jeux Olympiques. Je vous spoil un peu le film, hein, il va se faire baiser aussi, il sera jamais accepté en tant que meurtrier parce qu'en fait il refuse comment ça s'appelle quand t'as péché et que tu reconnais ton péché il refuse de faire amende pour le crime qu'il a commis, parce qu'en fait il a buté son père mais dans des conditions qu'il estime lui tout à fait valides, légitimes, et ça lui vaudra en fait de ne jamais sortir de sa tôle. Et en fait il va simplement battre un record à titre personnel dans cette prison dont il sera le seul à réaliser l'exploit, voilà, et l'ampleur.
Et là tu nous disais en antenne, en fait, quand on parlait un petit peu du film, que on reconnaît vraiment Michael Mann. Il y a beaucoup des éléments constitutifs de son cinéma,
voilà, tout à fait. D'une part donc le caractère complètement obsessionnel du héros, qui a proche de l'autisme, hein, est assez fascinant dans son désir justement de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres, mais c'est toujours les affaires des autres qui l'impliquent. Ce côté décalé aussi par rapport à son enjeu, qui est complètement intériorisé, en fait. Il est obsédé et obsessionnel parce qu'il y a quelque chose qu'il veut régler à l'intérieur de lui, mais la structure sociale qui l'emprisonne littéralement, parce qu'on est bien dans une prison, la mise en scène nous la détaille vraiment et nous montre comment tous les mécanismes se mettent en place à tous les niveaux, que ce soit du côté des gardiens, du directeur des Jeux Olympiques et des prisonniers eux-mêmes, pour se liguer finalement contre cet individu et l'écraser. Et c'est intéressant parce que ce qui peut être vécu comme le spectateur comme une victoire personnelle du héros à la fin du film, lorsqu'il bat ce record, pour Michael Mann, il y perd son âme, en fait, parce que lui, il aurait dû le faire à un niveau public. Sa libération, elle serait passée par le fait qu'il aurait montré au monde qui il était. Et là, il ne l'a montré qu'à lui-même, en fait. Ce qui, au niveau de la condition de l'artiste, est très intéressant. C'est comme s'il subodorait que, de toute façon, la valeur qu'il a lui-même, Michael Mann, ne sera jamais rendue publique, en fait. Il ne peut se battre que contre lui et se prouver les choses qu'à lui-même. Donc voilà, alors c'est un film qui, à sa sortie, donc a vraiment vivement impressionné. Il est sorti donc en salle en Europe. Aux États-Unis, il a eu un Emmy Award, donc enfin voilà, il a eu plusieurs prix prestigieux, et surtout les critiques américains ont fait constater qu'il aurait pu et dû sortir en salle. Alors, sur un plan strictement esthétique, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est typiquement dans les cadres de la façon de filmer de l'époque. Hein. C'est correctement filmé, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on reconnaît bien au niveau de l'éclairage et donc de la façon de cadrer, ce qui se faisait par ailleurs dans les séries comme Starsky Hutch, etc., qui était déjà de très bon niveau, hein, je précise. Le film, d'ailleurs, vous pouvez le voir... J'ai découvert ça cet après-midi intégralement sur YouTube, dans une copie plutôt correcte et avec des sous-titres français.
Après, il existe en Blu-ray, hein. Il est sorti voilà. De Blu-ray aux États-Unis.
Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, aux États-Unis.
Il y a peut-être l'utilisation de la musique aussi qui est un peu atypique pour la télévision de l'époque, non ? Dans comme un noble libre, non ?
Je ne saurais pas si elle est si atypique que ça, mais il y a effectivement l'inclusion déjà de titres de rock, etc.
Par exemple,
bien sûr.
Pas,
ouais.
C'est pas forcément.
C'était pas
vendu,
systématique,
quoi.
Mais ça avait déjà été fait pas mal au cinéma et ça contaminait déjà la télévision, ouais. Non, ce qui est ce qui a le mieux survécu au passage du temps, parce que c'est très marqué années 70, ce qui a le mieux survécu au passage du temps, c'est vraiment la description de la société pénitentiaire à tous les niveaux. Parce que ça se fait d'une façon très naturaliste, et donc on se doute très documenté. On voit que c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui était sur place, en fait.
C'est quelqu'un qui fonctionne énormément comme ça aussi, Michael Mann. C'est-à-dire, il se documente beaucoup sur tous ces personnages, en fait, et la façon dont il les présente, quoi. Alors, c'est moi qui m'attaque au film suivant, qui est Thief, le solitaire.
Et qui est un peu dans la continuité, en fait.
Tout à fait, et vis-à-vis du personnage, notamment, puisque ça présente, en fait, le personnage de James Caan, est un ancien taulard, en fait, qui est un perceur de coffres absolument brillant, et qui a une couverture, en fait, c'est-à-dire qu'il a une société de location de voitures, en fait, pour faire croire qu'il a une fronte, comme on dit, en fait, c'est-à-dire une société de couverture, enfin, c'est une entreprise, quoi. Et la nuit, en fait, il va percer des coffres et il monte des gros coups. Et c'est un personnage, en fait, qui a passé la moitié de sa vie en tôle, qui a un espèce de père de substitution, en fait, là-bas, qui est interprété par Willie Nelson, et qui se retrouve, en fait, en bisbille avec des employeurs un peu véreux, qui font partie apparemment des syndicats de Chicago. Parce que c'est assez marrant, hein, quand on connaît la carrière un petit peu quand on fait du rétro engineering sur la carrière de Michael Mann, on sait que c'est le cinéaste de Los Angeles, etc., etc. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui vient aussi de Chicago et qui a beaucoup filmé ça. Et un film comme Thief, c'est là-bas où ça se passe. Alors, fait amusant, c'est une production de Jerry Bruckheimer. Avant Jerry Bruckheimer ne soit vraiment Jerry Bruckheimer avec Don Simpson, en l'occurrence, et qu'ils se mettent à produire des énormes blockbusters comme Top Gun, Le Flic de Beverly Hills, tout ça. Donc c'était vraiment 2-3 ans avant, parce que c'est un film qui date de 81. Mais bon, ça semble presque cohérent, finalement, puisqu'en fait, on parlait de tous les cinéastes avec lesquels Michael Mann a plus ou moins évolué, les Adrian Lyne, les mecs comme ça, et en fait, c'est des gens qui ont tourné aussi avec Bruckheimer, quoi. Voilà. Et alors, je suis un peu dans la même logique, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense que Steve, c'est un film qui devait être, moi je l'ai vu sur le tard, en fait, après avoir vu Hit, en fait. Donc j'ai jamais vraiment vu la version qui était sortie en salle, parce que c'est un des points qu'il faut savoir avec Michael Mann, c'est quelqu'un qui retravaille ses montages en permanence. En l'occurrence, celui de Thief, c'est un film qu'il a retravaillé en 95 à sa sortie en laserdisc, qu'il a un petit peu réétalonné, qu'il a fini par réétalonner d'ailleurs, en fait, ces dernières années pour Criterion, notamment, en fait, quand ils ont ressorti le film en 2014 en Blu-ray. Et en fait, il y a des changements presque imperceptibles. Par exemple, il y a une fusillade à la fin du film où il a un tout petit peu changé les points de montage, en fait, pour accélérer la scène, ce genre de choses, en fait. Il a viré un plan, je crois, sur une scène de plage à un moment donné. Donc, en fait, techniquement, ça ressemble clairement... Enfin, quand tu le vois aujourd'hui, ça ressemble à un film de Michael Mann où tu te dis, putain, mais tout était là, stylistiquement parlant, etc., etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas encore totalement affiné. Et je pense que quand le film est sorti en salle à l'époque, je sais pas si toi tu l'avais vu, non, tu l'avais pas vu en salle, Raphaël, celui-là à l'époque,
Thief.
Non,
non, en
à 11 ans. mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient donc en germe. Mais d'un autre côté, en fait, qu'il a affiné pour les Michael Manniser, on va dire, un peu plus, suivant le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Il y avait déjà la musique de Tangerine Dream.
Il y a des choses qui étaient là, mais en fait, par exemple, l'étalonnage, tu vois, la façon dont il va utiliser les néons et les trucs comme ça, sur les copies, en fait, du Laserdisc, justement, de 95, parce que c'est comme ça que je l'avais découvert, le film, c'est pas aussi prononcé. Et d'ailleurs, en fait, il y a trois. Il y a, je crois, si. Alors, en France. Et le film est sorti chez Wildside. Aux États-Unis, il est sorti chez Criterion, et en Angleterre, par exemple, il est sorti chez Arrow. Et chez Arrow, je crois qu'il y a 3 montages, si je ne dis pas de bêtises, en fait, 2 montages ou 3 montages, et notamment, en fait, justement, la version
manisée.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un truc à dire, parce que c'est quand même quelque chose qui fait et qui va se retrouver dans tous ses films plus tard. Il l'a refait sur Hit, il l'a refait sur Le Dernier des Mohicans. Voilà, donc c'est, il a fait des director's cut carrément sur que ce soit Miami Vice ou Ali, quoi. Donc voilà. Et en fait, là où le film s'inscrit aussi dans la continuité de Common Olivery, c'est qu'en fait, en gros, c'est un personnage, le personnage de James Caan, en fait, qui aspire à une liberté. Et assez étrangement, c'est une liberté, en fait, qui est une liberté qui s'inscrit dans la famille, en fait. C'est-à-dire qu'il veut vraiment fonder une famille et être son propre homme. Et en fait, du coup, les gens avec lesquels il se retrouve en fait en conflit sont des gens qui lui proposent un contrat hyper juteux, mais qui en fait lui permettrait, il serait pieds poings liés avec eux, quoi.
C'est un pacte avec le diable qui est aussi un truc qui reviendra tout le temps.
De toute façon, c'est clairement un cinéaste qui a des logiques individualistes en fait et qu'il met en avant et voilà quoi. On en parlera quand les films seront quand on en parlera, mais c'est clairement des phrases toutes spécifiques, des punchlines dans Hit qui expriment ça en fait. Et quelque part, en fait, ça qui est intéressant, si pour ceux qui pourraient éventuellement découvrir Thief aujourd'hui, c'est que le personnage de James Caan, c'est peut-être ce personnage qui aurait pu être le mentor du personnage de Robert De Niro dans Hit, dans le sens où, en fait, c'est un personnage qui lui donne les clés de ce qu'il faut pouvoir faire en fait pour faire ce que tu veux en tant qu'homme libre, justement, quoi.
Il a aussi ce caractère semi-autiste et obsessionnel.
Totalement. De toute façon,
il y a ce long monologue, par exemple, qui a convaincu James Caan de participer au film. Ouais. Où là, très clairement, t'as le héros Michael Mann là qui est posé, mais plus encore
que ça, pour prendre cet aspect autistique, en fait, c'est-à-dire qu'il a, ce qui résume sa vie quelque part, en fait, et son désir, c'est un espèce de collage, en fait, de photos faites avec des photos de ses amis, par exemple, en fait, de son père de substitution, mais aussi en fait de ses fantasmes, en fait, de ses désirs, en fait, de ce qu'il veut faire dans sa vie, quoi. Et c'est un truc qu'on peut voir comme un élément assez symbolique. Et d'ailleurs, Michael Mann le réutilisera plus tard dans d'autres films. Mais en vrai, apparemment, d'après ce que Michael Mann dit lui-même, c'est un élément qui est vraiment un élément constitutif, en fait, c'est-à-dire en prison. Les gens se font des choses comme ça en fait pour pouvoir avoir une espèce de vue sur l'extérieur.
C'est des choses qu'il avait vues en prison. Quoi, en
fait. Exactement, et qu'il avait déjà utilisé comme un homme libre, puisqu'en fait, j'ai parlé du voisin du héros de Comme un homme libre, le Black qui se fait buter. En fait, les murs de sa cellule ne sont pas composés de posters, de Playboy, etc., mais uniquement de photos de la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas en prison. En fait, il se crée une autre prison dans sa prison en contemplant quotidiennement, ce à quoi il n'a pas droit. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement Mann avait vu à Folsom et qu'il avait choqué, en fait, cette idée.
Tu retrouveras partout, tu retrouveras dans Collatéral.
Voilà, cette idée d'un mec, en fait, qui se construit une deuxième prison intérieure, en fait, pour se punir encore plus que la société ne le punit déjà. Mais je trouve ça intéressant que le titre français qui était choisi à l'époque, c'est Le Solitaire. Ouais. Parce que c'est finalement, ils avaient compris quelque chose.
C'est évident, c'est ça. Ouais. Parce que le film parle de l'idée, en fait, en gros, que la prison, c'est une prison dans laquelle, en fait, que ce soit les syndicats, que ce soit les trucs, etc., ils essayent de l'enfermer là-dedans. C'est une prison dans laquelle lui, il ne veut pas, en fait, s'enfermer. Et c'est quelqu'un qui a la conscience de même de détruire l'image qu'il s'est créée, en fait. C'est-à-dire qu'une des scènes les plus flagrantes du film, en fait, c'est quand il met le feu, justement, à sa société de voitures. Et qu'en fait, son collage brûle dedans. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et en fait, il va littéralement s'attaquer aux gens qui veulent lui prendre sa liberté, qui lui disent en gros, hein, parce que c'est ça, quand il finit plus ou moins par accepter de travailler avec eux pour un gros cachet, ils finissent par lui dire maintenant tu m'appartiens, quoi. Donc c'est ça la logique des choses, quoi. Donc comme tu l'as signalé, en fait, effectivement, il y a déjà donc une espèce de musique hypnotique de Tangerine Dream à la Michael Mann, clairement, hein, c'est quelque chose qu'il utilisera vraiment, même quand il travaillera pas avec eux, en fait, plus tard. C'est quelque chose, en fait, qu'il va identifier, hein, dans Hit.
Ils sont plus des nappes d'ambiance, en fait, que vraiment quelque chose de très mélodique.
Voilà, et y a un truc, en fait, que je trouve qui est assez intéressant avec le film, c'est que on pourrait croire, en fait, qu'il a une espèce de logique de film dans l'air du temps, c'est-à-dire stylistiquement parlant.
Il en est plutôt en avance même.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, en fait, c'est un film que tu peux revoir aujourd'hui, alors qu'il s'inscrit complètement, parce que comme on l'a dit, il est Michael Manisé, qui s'inscrit donc dans son style à lui, qui est très spécifique. Moi, que j'adore, hein, personnellement, enfin, je trouve ça assez, assez beau, quoi, en fait, la façon dont il a de filmer les villes, et, etc., etc. Mais qui aurait pu être daté. Manhunter, on en parlera plus tard, c'est pareil, ça aurait pu être très daté en fait. Il y a des effets de style, par exemple, même, je ne parle pas uniquement de lumière ou de choses comme ça, ou de musique, par exemple, il y a des arrêts sur image à des points clés très spécifiques en fait, qui sont des trucs de montage extrêmement, qui pouvaient être extrêmement dynamiques dans les années 80, mais qui finalement en fait, ne sont plus du tout aujourd'hui. Malgré le fait qu'on pouvait les faire, beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Et je pense notamment, par exemple, il y a à la fin dans la fusillade finale, il y a tout un tas de plans comme ça où quand il tire une balle dans la tête d'un type, il y a un espèce d'arrêt sur image dans le même plan pour repartir ensuite. Il y a ça plus tard dans Manhunter aussi. Il y a des coupes drastiques et tout. Et en fait, c'est assez intéressant de voir à quel point finalement tout ça. Tous ces trucs qu'il a tenté, qu'il a essayé, perdurent avec le temps finalement. Et quand tu revois les films aujourd'hui,
il travaille sur l'ellipse aussi, voilà. Michael Mann, hein, beaucoup. Hein, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tailler dans le tas pour justement te déstabiliser. Puis toi, t'es obligé de t'impliquer en fait pour recoller les morceaux et te dire ah oui, donc d'accord, ça c'est lié à ça et c'est lié à ça. Et le truc aussi qui est intéressant avec Fif, c'est que c'est vrai qu'il y a de la stylisation chez Michael Mann, mais il me semble en tout cas qu'elle découle très très souvent en fait de ses recherches. C'est-à-dire que c'est comme s'il allait tellement loin en fait dans la recherche et l'introspection de ses personnages d'une part, et puis aussi la recherche qu'il en tirait un style en fait. C'est-à-dire que le style ne fait que découler en fait de tout ce travail-là qui arrive en amont et n'est pas plaqué en fait sur le film. Et c'est ça en fait qui, à mon avis, leur garantit de traverser les époques aussi facilement.
Ceci dit, il avait un tout petit peu été, dans la continuité d'un autre film qui lui était sorti en 78, qui est The Driver de Walter Hill, qui raconte presque la même histoire, hein, celle d'un professionnel de sa branche sur qui la mafia veut mettre la main, quoi. Et ce qui est amusant, c'est de voir l'espèce de leg esthétique qu'il y a entre les deux films, parce que The Driver reste un film des années 70, mais dans lequel les années 80 commencent à se faire sentir et à infuser. Dans l'esthétique du solitaire, là, les années 80 sont là. Il y a une obsession à essayer de capturer la ville la nuit dans le film, notamment dans l'utilisation des néons, etc.
Et des reflets aussi énormément sur les cadres des voitures et tout.
Tout à fait.
Mais moi, je me demande jusqu'à quel point, justement, cette esthétique-là, en fait, que ça vienne de Walter Hill et que ça vienne de Michael Mann, en fait, n'est pas un dérivé actualisé du film noir, en fait. C'est-à-dire vraiment
la volonté de... Le film noir en couleur, tout à fait.
Vraiment l'idée de prendre cette esthétique-là qu'ils adorent, tu vois, et en fait de l'appliquer à un film en couleur, de l'appliquer à un film actuel.
Voilà. Et il faut dire que l'année suivante va sortir un film de Ridley Scott qui s'appelle Blade Runner et qui sera dans la continuité de cette recherche esthétique. Donc oui, il est quand même un peu en avance parce que en 81, Hollywood n'a pas franchi encore le pas sur le plan esthétique, j'entends des années, non, des années 80.
Alors pour juste un petit peu peut-être boucler sur le solitaire, ce qui est assez intéressant aussi, c'est comme tu l'as pointé du doigt, en fait, et ça c'est quelque chose qui reviendra assez régulièrement en fait chez Michael Mann, c'est la figure en fait du meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage-là, c'est le meilleur perceur de coffre-fort. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens le veulent, quoi. Et c'est pour ça que lui, c'est sa clé, en fait, pour justement ne pas se faire avoir, en fait, et aller contre vents et marées, on va dire, quoi. Et ça, c'est une figure assez intéressante, parce que ce soit dans Manhunter, que ce soit dans Hit, et là, pour le coup, sur les deux personnages, ce sont les meilleurs, en fait, dans leur domaine. Et quelque part, il y a, j'ai envie de dire, presque une façon de se projeter dans personnages-là qui est totale.
Excusez-moi les gars,
Michael Mann ou... Non mais je le précise pour les gens qui n'ont pas vu les films, enfin voilà. Qui est déjà flagrante en fait dans ce premier film. C'est ça aussi qui le rend aussi cohérent.
Il parle de lui, quoi.
C'est ça qui le rend aussi cohérent, même à la revoyure en fait. Et pour, je pense, la plupart des gens, quand ils l'ont découvert, ne savaient pas qu'ils étaient en train de voir un film de Michael Mann, on va dire. C'est-à-dire, contrairement à maintenant, quoi. Merci les gars.
Il y a une petite anecdote marrante peut-être à rappeler aussi sur le solitaire, qui est que déjà Michael Mann, mais tu l'as évoqué déjà, Steph, c'est son tour en fait de gens qui ont vraiment vécu en fait les événements qui sont dépeints. Et juste pour anecdote, c'est quelque chose que James Caan raconte. Je crois que c'est dans les bonus du Blu-ray justement de Wildside. où en fait, il s'était entouré notamment de flics, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, mais aussi de perceurs de coffres, en fait. Et ça, c'est plutôt beaucoup plus culotté. C'est un truc qui reviendra souvent. C'est beaucoup moins facile, évidemment, d'avoir recours au service de ces gens-là que d'un représentant des forces de l'ordre.
Il avait déjà l'habitude de négocier, hein, avec les criminels, puisque Comme un homme libre a été tourné dans la prison même, au milieu des gangs. Et voilà, la production se serait fait virer si jamais il y avait eu une agression à leur encontre. Mmh. Et donc, il a quand même négocié avec...
Faculté à se les mettre dans la poche. Ouais, quoi,
il a négocié avec les chefs de chaque gang en prenant des hommes à eux dans son équipe et en leur disant, en gros, en leur expliquant l'affaire, quoi. On va être viré s'il y a du sang qui coule. Et ce sont ces chefs de gang qui se sont chargés de faire en sorte que le tournage se passe bien.
Mais ce qui est amusant sur le solitaire, en fait, c'est que deux vieux antagonistes se sont retrouvés, en fait, sur le tournage. Ils se sont rendu compte que c'était des mecs qui s'étaient poursuivis, qui s'étaient tirés la bourre déjà, mais des années et des années auparavant, qui n'avaient jamais réussi à se choper l'un ou l'autre, à régler leur compte, et tout à coup ils se sont retrouvés sur le plateau de Michael Mann à dire mais c'est toi, et ils ont commencé à essayer de régler leur compte.
Et lui était au milieu, il a fait un champ contre champ. Voilà.
Il y a déjà dans le film, alors il y a déjà aussi des figures qu'on va retrouver dans le cinéma de Michael Mann. Il y a, par exemple, il y a Denis Farina qui apparaît en homme de main un peu, comment dire, patibulaire. Il y a des mecs comme ça. Hein, et Denis Farina, on le sait, c'était un ancien flic aussi, qui est devenu acteur. Quoi. Par contre, c'est pas un film qui a marché au box-office à l'époque. En fait, c'était un succès assez mitigé. Mais
ça marchait correctement, puis surtout ça l'a mis tout de suite en fait sur le devant de la scène, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit voilà, c'est pour un premier film, parce qu'encore une fois ça reste
son premier
vrai film officiel, hein. Tout le monde s'est dit voilà, il y a un mec là qui est arrivé, qui a une voix et un regard très tout à fait atypique, et qu'il faut suivre, et qu'il faut produire, et qu'il faut soutenir. Et à l'issue en fait de la sortie du Solitaire, Michael Mann a reçu une quantité apparemment astronomique de
mais alors, surtout des polars.
Et voilà, et c'est ça le truc en fait, c'est qu'il a reçu que des polars, il a reçu que des trucs de casseurs, que des trucs de hold-up, etc.
Et son second film, c'est un film qui est assez étonnant finalement, parce que alors déjà qu'il y a une histoire vraiment incroyable, et qui en plus en fait semble sortir des canons de ce qu'on a connaître de Michael Mann aujourd'hui, tout en étant clairement aussi un film de Michael Mann d'une certaine
manière.
Alors
certes, mais ça reste quand même une exception.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est-à-dire que là, maintenant, on arrive à La Forteresse Noire. Et c'est un film, en fait, que Michael Mann, qui reste unique, en fait, hein, dans sa filmographie. C'est son gros film à problème. C'est peut-être pas son pire film, mais en tout cas, c'est son gros, gros film à problème. C'est le film qui, vraiment, au niveau de la production, va dérailler, mais alors complètement. Et c'est un film qui détonne quand même, malgré tout, en fait, dans sa filmographie, ne serait-ce que parce qu'il y a des éléments purement surnaturels. C'est-à-dire que Michael Mann, il peut y avoir des moments de décalage par rapport à la réalité, mais c'est en règle générale des moments de vision, des moments, des espèces de licences poétiques par rapport à la réalité qu'il est en train de dépeindre.
Je pense au chien, au loup, par exemple, dans Collateral, ce genre de choses.
C'est des coyotes, je crois. Mais ça, on en reviendra, d'ailleurs, on en reparlera. Je pensais surtout, en fait, à Manhunter, en fait, où vraiment, pour le coup, tu as des visions dedans où tu peux dire, t'es dans un film fantastique, mais tu l'es pas littéralement. La Forteresse Noire, pour le coup, est un film totalement fantastique, voire horrifique. Même si, alors je dis ça, mais il ne faut pas le dire à Michael Mann. C'est-à-dire que Michael Mann, c'est quelqu'un qui ne se prête pas facilement à l'exercice de l'interview. Il y a des choses à ne pas dire quand tu te retrouves face à Michael Mann, apparemment. Ça n'a malheureusement jamais été mon cas. Et notamment, il ne faut pas parler de genre. Il faut pas parler de référence cinématographique en fait quand tu lui parles. Or là, moi, je suis un peu obligé de parler genre quand je parle de la Forteresse Noire, et je vais être surtout obligé de parler de référence cinématographique.
Je pense qu'il nous écoutera pas. S'il nous écoute et qu'il nous appelle, je te passerai le message.
Mais le truc, c'est que en tout cas, même si la Forteresse Noire, donc j'ai quand même pitché rapidement le film, c'est adapté d'un best-seller. C'est une adaptation. Moi, j'ai pas lu le livre, mais apparemment, c'est une adaptation très très libre quand même de ce roman. Et c'est un pur fantasme en fait, c'est-à-dire que c'est une histoire fantastique avec des nazis, donc ça c'est cool. Donc tu mélanges des monstres et des nazis, moi j'achète tout de suite personnellement. Hein. Et donc c'est une faction en fait de quelques soldats nazis conduits par un supérieur qui est joué par Organ Prochnov qui pour reprendre à peu près son rôle de Das Boot, je pense qu'on peut dire un truc un peu comme ça, quoi. C'est pas très très éloigné. Et ils partent dans une forteresse qui est en Roumanie, qui est située en Roumanie, complètement perdue. Ils s'installent là pour monter une base en fait. Et ils se rendent compte qu'elle est très bizarre. Déjà, ils se rendent compte qu'elle est bâtie non pas pour se protéger d'une menace extérieure, mais pour se protéger d'une menace intérieure. Il y a des croix en nickel ou peut-être en argent, on ne sait pas trop. Puis d'ailleurs, le film reste assez mystérieux sur ce point-là. Et en fait, la concupiscence de certains soldats va réveiller une espèce de force démoniaque, mais peut-être pas non plus. En tout cas, une force surnaturelle très très puissante qui va elle-même réveiller une espèce de gardien un peu surnaturel qui est en Grèce.
On dirait un pitch à la Arnaud Bordas.
C'est très bizarre, c'est vrai. Mais c'est super dur à résumer, pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait à résumer ce film-là. Et en gros, ça va être une espèce de combat entre le bien et le mal, on va dire.
Le gardien, en fait, en parallèle, on suit son voyage de Grèce jusqu'en Roumanie.
C'est de façon très elliptique.
Montage qu'on connaît, oui.
C'est très court. Et tout ça sur une condamnation, pas forcément toujours très fine d'ailleurs, du régime nazi et des horreurs en fait qu'ils ont
commis. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup exagéré aussi là-dessus.
On a beaucoup exagéré, c'est vrai. Mais là on va avoir des gros problèmes.
C'était une blague, mais en fait, c'est
bien sûr. L'ironie étant qu'ils ont besoin d'un vieux docteur juif.
Voilà, c'est ça, pour comprendre en fait ce qui leur arrive. Disons que le peu de dynamique dramaturgique qui reste, qui subsiste en fait dans le film tel qu'on le connaît aujourd'hui, fonctionne en fait là-dessus, c'est-à-dire sur la position en fait de ce vieux professeur, enfin pas si vieux d'ailleurs, mais qui a une maladie en fait qui le rend très vieux, ce vieux professeur juif, par rapport à la puissance qu'il peut obtenir à l'intérieur de cette forteresse noire pour se venger ou pas du régime nazi.
Est-ce qu'il est
au camp de la mort avec sa fille.
Est-ce qu'il libère cette force l'Europe
ou pas. Alors,
c'est Ian McKellen qui le joue,
Et qui a quelques élans pré-gandalfiens. D'ailleurs, assez rigolo de revoir le film après Les Seigneurs des Anneaux. Donc, on voit très bien en fait, qu'on est dans un registre de film, encore une fois, fantastique, horrifique, même si, encore une fois, Michael Mann se prend ses distances en fait avec tout ça. Pour lui, c'est pas du tout ça en fait, la Forteresse Noire. Il le présente en fait comme une espèce de conte de fées noir pour adultes. Lui, sa référence ultime dessus, c'est Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Donc, c'est-à-dire une lecture, prendre en fait ce récit-là comme une pure allégorie de la psyché de ces personnages-là, plongés dans un contexte historique qui est profondément horrible, traumatique, tout ce qu'on veut. Et comment en fait tu abordes en fait tout ça et tu traites tout ça par le biais d'images en fait qui dépassent notre réalité. Quoi.
On peut aussi quand même faire remarquer que le film est quand même un peu dans l'air du temps au niveau de son pitch, puisqu'on avait un retour du gothique en fait au début des années 80 avec Coup sur coup Alien, Hurlement, Loup-garou de Londres. Enfin, il y avait eu quelques films qui modernisaient en fait ces figures de l'horreur gothique. Et au départ, en tout cas en France, parce que je l'ai vu en salle, La Forteresse Noire, il a été vendu dans le sillage de ces productions-là.
Ouais. Alors même si je pense que c'est moins, on est moins dans l'horreur gothique, c'est-à-dire que la grande référence quand même de Michael Mann, et là pour le coup je vais à nouveau énerver Michael Mann, désolé Michael, mais en fait la grande référence de Michael Mann sur le registre du genre, ou en tout cas visuel, c'est le cinéma muet allemand, et plus, le cinéma muet en général, et plus spécifiquement le cinéma expressionniste allemand, c'est-à-dire que tu as certains décors comme par exemple l'extérieur de la forteresse, qui est une citation, mais alors littérale, des Trois Lumières de Fritz Lang. Ouais, ouais. Molassar, donc, qui est donc la grande force plutôt démoniaque, on va dire ça comme ça, qui est contenue à l'intérieur de la forteresse noire, c'est une citation pareille, assez littérale du golem.
Du golem, oui. Oui,
mais ça, c'est assumé, j'ai l'impression.
Oui, 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 non, mais ça, c'est un truc qu'il cherchait de toute façon. Alors,
design
de Anti-Bilal, mais qui arrivait assez, ouais, assez tard. Mais
parce que Mann avait vu l'album La Foire aux Immortels, en fait. Et c'est ça qui lui avait donné l'idée de faire appel à Inky Bilal.
Après, c'est un putain de design. Moi, je
c'est vrai. Après, il faut voir aussi comment il a réalisé. Ça, c'est plus problématique. Et il y a aussi des citations à l'intérieur du film assez littérales. Et là, c'est plus au plan par plan dû aux fosses du Murnau. Donc, on est vraiment aussi là-dedans. C'est important parce que j'en reparlerai plus tard. C'est-à-dire que on l'affilie rarement, en fait, au cinéma muet, Michael Mann. Et pourtant, moi, je pense que c'est une influence hyper importante quand on parle de son cinéma. Mmh. Comme j'ai envie de dire, tous les grands cinéastes visuels qui se respectent, en fait.
Bah, quand on parlait de La Rue sans joie tout à l'heure de Pabst, c'est
voilà,
évidemment
c'est
une
pas,
base.
Et c'est, ouais, pas, et c'est pas un hasard. Et lui, il ira d'ailleurs sur la forteresse jusqu'à réutiliser, ressortir des vieux projecteurs qui étaient utilisés par le cinéma expressionniste allemand dans les années 20, des vieilles lampes à arc, pour obtenir une luminosité, surtout une teinte en fait, de lumière. C'est bizarre de parler de teinte, alors que c'était du cinéma noir et blanc, mais notamment dans les scènes à l'intérieur de la forteresse noire. Ouais. Tout ça, c'est très bien. Tu dis, bon, bah, je vais voir un truc.
Ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. Voilà, où est-ce que je peux le voir?
Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est un film, c'est vraiment littéralement un gros film à problème. Il y a des problèmes qui ne sont pas liés à Michael Mann et qui sont multiples. Notamment le fait que au début il ambitionne en fait de tourner dans les Alpes, en fait de tourner en Europe, pas très loin en tout cas de la Roumanie. Au début des années 80, c'est difficile d'envisager un tournage même en Roumanie, mais enfin voilà, il veut se rapprocher géographiquement de ça, toujours dans ce souci d'authenticité. C'est pas possible, du coup il décide d'installer la totalité de ses décors extérieurs parce que toujours, ça aussi c'est un trait qu'on va retrouver chez Michael Mann, il y a très peu de reconstitution en général de purs décors dans ses films. Quand il construit un décor, c'est déjà sur un lieu qui existe, donc un lieu qui est déjà chargé, quoi. Et lui, là, il va décider de s'installer, en fait, d'installer les décors extérieurs qui sont énormes dans une carrière d'ardoise, en fait, au Pays de Galles. Donc ça, c'est une très bonne idée visuelle, parce que c'est vrai que c'est extrêmement payant, c'est-à-dire qu'ils sont cernés comme ça de murs, c'était entre le minéral et quelque chose de métallique, enfin, c'est hyper payant, surtout
un noir agressif.
Ouais,
en fait,
c'est vraiment génial, quoi. Et surtout, je ne l'ai pas cité, mais c'est Alex Thompson qui signe la photo, c'est quand même pas n'importe qui, il venait de faire Excalibur à l'époque, il va faire Legend après, c'est un grand, grand directeur de la photo des années 80, Alex Thompson, du moins, à mon humble avis. Mais alors le problème,
je pense que c'est un peu l'avis de beaucoup de monde.
Oui, voilà. C'est,
moi, c'était comme je disais à Julien, la première fois de ma vie que je repérais en fait le nom d'un directeur de la photo, parce que j'avais été tellement ébloui par la lumière je l'ai vu en salle, hein, parce que je suis vieux, que j'ai retenu le nom d'Alex Thompson. En fait, c'était la première fois que je retenais un chef-op. Ouais.
Donc ça, c'est le et en fait, ça va poser d'énormes problèmes. C'est-à-dire que il y a des grosses intempéries au moment où il tourne en fait au Pays de Galles. Et en fait, il y a deux choses, en fait. C'est qu'ils sont obligés de descendre le matériel dans la carrière à ciel ouvert grâce à des grandes grues qui ont du mal, en fait, à tenir debout parce qu'il y a des bourrasques de vent hyper violentes. Et puis, il faut amener de la lumière là-dedans parce que c'est hyper sombre, etc. Et il y a notamment des rampes de lumière qui sont installées à l'extérieur qui, pareil, vont être mises à mal par les bourrasques de vent qui frappent le plateau régulièrement. Michael Mann a également beaucoup, beaucoup de soucis avec les effets spéciaux en règle générale. C'est-à-dire que les équipes anglaises de l'époque ne sont pas super au point, ne sont pas aussi perfectionnées qu'aux États-Unis. Et notamment au niveau des effets spéciaux de maquillage, il fait appel à quelqu'un qui s'appelle Nick Mallet, qui n'est pas le meilleur spécialiste des effets spéciaux. Et ça se sent un peu. C'est-à-dire que Molassar, à la fin, il y a une problématique de texture. Oui. Tu sens bien que le costume, il n'est pas très habile. Les pieds, proportionnellement les jambes, en fait, la partie inférieure du personnage par rapport à la partie supérieure, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la silhouette du personnage. L'autre problème des effets spéciaux, c'est qu'il fait appel à Wally Weavers pour les effets spéciaux visuels. Wally Weavers, c'est un vieux de la vieille, pas si vieux d'ailleurs, hein. Il a moins de 70 ans, alors j'ai plus l'âge exact quand il attaque la forteresse noire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a bossé comme par hasard avec Kubrick, notamment sur Docteur Falamour, donc je pense qu'il a, il y a, voilà, il y a quelque chose à chercher par là, mais qui a travaillé sur tous les grosses productions américaines qui ont été tournées en Angleterre à l'époque. On le voit au générique de Superman, par exemple. Et Wirth, en fait, c'est un vieux de la vieille. C'est-à-dire, c'est pas du tout un mec comme à ILM à l'époque, toute cette génération en fait qu'on voit émerger aux États-Unis. C'est quelqu'un qui garde énormément secret toutes ses techniques et toutes ses méthodes de travail. Et il fait beaucoup de promesses. Ils font beaucoup de plans avec Michael Mann sans lui expliquer exactement comment il va faire. Et le malheur du film, en fait, c'est qu'il va mourir durant la production du film. Et il va laisser en fait énormément de plans truqués qui ne seront pas terminés. Donc il y a beaucoup de gens qui vont venir aider Michael Mann. Michael Mann lui-même est obligé de faire un certain nombre en fait d'effets spéciaux visuels, mais c'est pas du tout à la hauteur. Ça se voit en fait quand tu vois le film, c'est un vrai gros problème, les effets visuels et notamment tout ce qui est effets lumineux. La fin devait, enfin une des fins, parce qu'il y a plusieurs fins et ça c'est, je vais y arriver, c'est un autre problème en fait de la production de la Forteresse Noire. Mais en tout cas, à la fin, il y a des effets lumineux. On sent que il y a vaguement une influence de 2001, l'Odyssée de l'espace là-dedans. Et en fait, c'était vraiment l'ambition de Michael Mann d'avoir un truc de trip comme ça. Et ben, c'est pas du tout là, en fait. C'est pas du tout à la hauteur. Et le dernier problème, je pense que c'est vraiment Michael Mann. C'est-à-dire que Michael Mann débute le tournage, le scénario n'est pas terminé. C'est la seule fois, d'ailleurs, de sa carrière qu'il fera vraiment ça.
Ouais, c'est étonnant.
Il promettra, en fait, de plus jamais faire ça ensuite. Il réécrit en permanence le scénario. Du coup, il y a un dépassement de budget qui est un truc de fou furieux. Je crois qu'en totalité, La Forteresse Noire, c'est genre 120-130 jours de tournage, ce qui est monumental, hein, en particulier à cette époque-là.
Et sur un film de quelqu'un qui n'est pas une gloire,
qui n'est pas
métier,
une gloire, ouais. Qui n'est pas une star. C'est incroyable qu'il ait réussi à tenir jusqu'au bout, d'ailleurs, là-dessus. Et il y a des comédiens, notamment comme Ian McKellen, qui doit avoir donc un maquillage un peu lourd pour paraître plus âgé, qui révélera plus tard qu'il pouvait arriver qu'il soit maquillé, qu'il attende 5 jours d'affilée avec son maquillage. Tous les matins, il vient, on lui pose le maquillage, il ne tourne pas un seul plan, en fait. Parce que Michael Mann est en train de réécrire en permanence, de réécrire. Et il se perd, en fait, un peu dans ce projet-là. Il demande des retakes, il a des retakes qui durent très, très longtemps. Il se perd dans la post-production, qui, comme je l'ai expliqué, pour les raisons, notamment le décès de Wally Weaver, c'est de toute façon extrêmement difficile.
Il avait apparemment un cut beaucoup plus long que
Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'il devait contractuellement livrer un montage en fait de 120 minutes et le premier montage en fait qu'il livre fait 210 minutes, qui est un truc en fait finalement assez attendu quand on connaît aujourd'hui Michael Mann, mais évidemment ça ne peut pas passer avec Paramount et avec ce type de budget, avec l'exploitation qui suit derrière. Donc le film est repris par Paramount, remonté n'importe comment. C'est-à-dire, c'est à un tel point qu'il y avait une happy end, dans tout conte de fées, en fait, une happy end, une vraie fin positive. Et le film se termine en noeud de boudin, en fait. C'est pas forcément une fin négative, mais c'est une fin... c'est pas fini, en fait, clairement, quoi. Il y a des trucs qui manquent.
Parce que les projetesses de la version 2 heures avaient été catastrophiques, et donc ils l'ont encore raccourci.
Ils l'ont encore raccourci, c'est-à-dire que Michael Mann a essayé de remonter, par exemple, est repassé derrière pour obtenir une version 2 heures, effectivement. Merci de le rappeler, Raph. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, ils ont retiré encore 30 minutes. Du coup, on se retrouve avec un film d'1h30 qui doit être de loin, je pense, le film le plus court.
Sans compter peut-être comme Un homme libre ou ce genre de
choses. Et du coup, tu te retrouves avec un objet qui est... c'est des morceaux de film, en fait. La Forteresse Noire, c'est-à-dire que le film n'est pas mixé non plus. Il y a des grandes portions qui ne sont pas mixées. T'as notamment une scène de dialogue entre Gabriel Byrne et Rogan Prochnow qui est aberrante au niveau du son. C'est un truc de dingue, quoi. Tu sens que c'est le son direct. T'as l'impression que ça n'a pas été du tout travaillé. La voix de Prochnow est complètement en dessous. Enfin, c'est un truc de dingue.
Après, il faut peut-être préciser aussi un truc, c'est que c'est un film qui est invisible aujourd'hui quasiment. Ouais. En gros, moi, personnellement, je l'ai découvert en vidéo recadré. Donc à la grande époque du pan and scan, c'était un enfer. Donc en fait,
dégueulasse.
Ça, c'est un film en scope, quoi. J'ai fini par voir le film des années après, quand il est passé sur une chaîne de cinéma qu'il a finalement montré en scope, mais bon, en SD, etc. Donc voilà.
Dans une copie très délavée aussi.
Voilà. De toute façon, c'est un film que Michael Mann enterre littéralement. Il ne veut pas s'en occuper. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de sortie. Il y a même pas de sortie DVD. Il devait en avoir une au début des années 2000. En fait, elle a jamais eu lieu. Il était éventuellement question qu'il remonte le film aussi, mais finalement non, c'était que des rumeurs.
Tous les problèmes que Julien a soulignés, ils sont bien sûr visibles. Hein, quand tu découvres le film en salle, tu vois bien qu'il y a un problème à ce niveau-là, que d'une scène à l'autre, on n'a pas la même qualité, pas seulement sur un plan narratif, c'est un bordel sans nom, mais sur le plan esthétique aussi. Il y a un nom qu'on n'a pas cité qui est quand même important, que celui du décorateur, hein, chef décorateur John Box, qui est une putain de légende du métier, qui est le mec de Docteur Jivago et Laurence d'Arabie. Enfin, voilà, et la forteresse qu'il lui a construite, elle est en tout cas sur grand écran, elle est stupéfiante. Moi, je me souviens de plans justement où ce fameux noir agressif, photographié par Alex Thompson, tu avais l'impression que c'était des lames de rasoir qui tombaient dessus. Enfin, il y avait. Donc, tu as ce plan d'intro qui te met dans une ambiance incroyable, une ambiance gothique totalement dingue. Et juste après, effectivement, dans le contre-champ, un truc, une lumière, un effet spécial lumineux pourri, ou un Molazar avec les épaules et les bras qui sont pas dans le bon axe. Donc, c'est un film pas terminé, en fait.
On le verra pas non plus, parce qu'apparemment, il y a aussi un problème de droit en fait, autour du film et sur la musique de Tangerine Dream. C'est-à-dire qu'il retrouve aussi Tangerine Dream.
Qui pêchait beaucoup aussi, je trouve, sur ce genre d'image.
Moi, je suis un peu partagé là-dessus. C'est-à-dire que
Moi, je me souviens d'un spectateur en salle qui a fait une blague en fait à cause de la musique, en se demandant, en disant, il y a une discothèque, il y a une discothèque à côté. Non, parce que on est dans un moment d'ambiance où les soldats allemands sont censés découvrir un truc flippant, quoi. Et on avait Tangerine Dream qui nous fait presque un morceau.
Alors moi, je pense qu'il y a deux problèmes. C'est déjà que c'est le montage son aussi du studio. Donc on ne sait pas exactement ce que Michael Mann aurait mis sur ces trucs-là. Et en plus, moi, non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, la musique de Tangerine Dream sur La Forteresse Noire, c'est comme pour Sorcerer, en fait. C'est-à-dire que ça te sort, en fait, de l'époque, en fait. C'est-à-dire que ça peut aussi donner un côté atemporel, parce que justement, tu as un choc, en fait, entre la tessiture musicale et puis ce que tu vois à l'image, qui ne colle pas, en fait.
Dans
et qui,
les du scènes coup, de Molassar.
Dans une espèce de truc.
Dans les scènes de Molassar, il y a des trucs assez efficaces, hein, je trouve. Hein. Moi, je trouve, en termes d'ambiance, c'est assez fascinant, quoi, tu vois, par certains moments, quoi. En tout cas, voilà, il y a deux, trois scènes qui peuvent fonctionner autour de
totalement,
ça.
Totalement, et puis c'est devenu un film culte. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est-à-dire que c'est un vrai film culte. On nous bassine les oreilles tout le temps avec est-ce que c'est un film culte ou machin. Non, ça, c'en est un vrai. C'est-à-dire c'est un film invisible. C'est un film que peu de gens ont vu. C'est un film qui est dur à voir, qui est difficile à voir. Mais c'est un film qui, par contre, continue, qui traverse les époques, qu'on le veuille ou non, avec tous ses problèmes, qui existent encore, qui est cité comme une référence par beaucoup de réalisateurs. Il y a un documentaire de fans dessus. Et c'est un film qui revient, qui subsiste, qui traverse le temps. Michael Mann, en général, quand il donne des conférences, il y a toujours des questions sur La Forteresse Noire. Donc voilà, malgré lui, d'ailleurs, hein, malgré Michael Mann, il y a quelque chose de sa puissance. En fait,
C'est le prix à payer quand tu deviens un cinéaste comme Michael Mann. Je pense que c'est que quand t'as d'un seul coup un film qui disparaît plus ou moins de la nature et que tu te retrouves en fait les gens veulent le voir, hein, puisque tout simplement c'est le film du mec qui a fait Hit ou le film du mec qui a fait Insider ou Ali ou ce genre de choses, quoi. Ou Collatéral, bah en fait forcément ils veulent voir ce qu'aurait pu donner ce film là, même si c'est un film sacrifié, quoi. Gros bide. Aussi,
énorme
bide,
énorme,
voilà, qui va condamner la carrière de Michael Mann au cinéma pendant un temps, en tout cas. On le précise rapidement, il va se refaire
il va
à la télé.
Film Hell ou je sais pas, hein, c'est quoi l'expression ?
C'est Hollywood.
Jail.
Hollywood Jail. Il va se refaire à la télévision, hein, Rafik.
Oui, tout à
avec
fait.
Notamment
avec la série
des années 80.
Des années 80, emblématique à tout point de vue, qui est Miami Vice, de Flic à Miami, dont il n'est pas à l'origine, hein, oui, oui. Auquel il va se greffer, mais amener du coup une patte qui va vraiment l'inscrire dans son époque, jusqu'à pratiquement devenir l'emblème visuel en fait des années 80. C'est-à-dire que des décennies plus tard, lorsqu'on voudra en rendre hommage aux années 80 dans des jeux comme GTA Vice City, on ira chercher du Miami Vice. En gros,
voilà. Entre autres choses.
Entre autres choses. Mais en tout cas, c'est un vrai marqueur culturel, un carton absolument monumental qui, du coup, va lui permettre déjà d'asseoir son pouvoir, bien sûr, mais aussi de tenter de rebondir vers le grand écran en cherchant explicitement à incarner en fait cette décennie. Et pour moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai vu, le projet Manhunter, il est vraiment un manifeste, en fait. Il est pensé comme un manifeste des années 80 et de l'esthétique des années 80. Donc c'est une adaptation du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge, dont Les droits à l'époque sont à Dino De Laurentiis, qui est dans sa grande phase auteur. Hein, c'est l'époque où il est en train de bosser avec, avec David Lynch sur Blue Velvet. Et il vient de sortir d'un énorme échec de Michael Cimino, qui est L'année du dragon. Et c'est une des raisons qui va faire que le titre du film va changer, puisque donc Cimino ne veut pas faire un nouveau film avec le mot dragon dedans, qui pense que le mot est maudit.
Non, Michael Mann.
Non, pardon, Dino De Laurentiis.
Ah, Dino De Laurentiis.
Ouais, ouais. Voilà. Et c'est un projet aussi qui, on peut difficilement s'en rendre compte aujourd'hui, est aussi assez risqué, puisque le roman donc parle d'un profiler, donc qui est quelqu'un qui cherche à comprendre les méthodes d'un tueur en série pour pouvoir enquêter en fait et découvrir son identité. Mais comprendre ses méthodes, c'est aussi plonger dans son psychisme. Et en fait, ce personnage va peu à peu perdre pied, d'autant plus qu'il va avoir très mauvaise idée pour s'aider dans son enquête d'aller interviewer un autre tueur en série qui lui est en prison et qui s'appelle le docteur Hannibal Lecter et celui-ci
qui a changé le nom, ouais.
Voilà, et celui-ci va le d'une certaine façon le manipuler en fait, allumer la mèche en fait qui va autodétruire notre personnage qui est déjà un peu au bord du précipice.
Pour faire une petite aparté très rapide, il y a aussi ça qui est fascinant avec le film, c'est que donc en fait il s'inscrit dans une franchise sans être dans la franchise, puisque c'est une franchise qui existera plus tard, qui est celle du Silence des Agneaux.
Exactement.
Avec certains mêmes personnages, avec notamment donc Hannibal Lecter et tout. Et donc en fait c'est assez marrant de voir finalement deux visions de cinéaste sur un sujet spécifique avec des personnages spécifiques.
J'ai eu la chance d'ailleurs de voir dans la même salle, puisque c'était l'UGC Normandie que j'ai vu Manhunter dans une salle vide, parce que le film a été un énorme bide. Et trois ans plus tard, ou trois, quatre ans plus tard, je vois Le Silence des Agneaux dans la même salle, mais cette fois-ci c'était complètement plein. Et ça m'a fait comprendre aussi peut-être une des raisons de l'échec du film, qui est le fait que le film de Michael Mann, il est très très cérébral, là où le film de Jonathan Demme, il est totalement organique en fait, presque physique en fait. Et que c'était peut-être une meilleure approche au niveau grand public, j'entends. Mais du coup, voilà, Manhunter, c'est un film qui est très pensé. J'ai toujours eu la sensation que Michael Mann a été furax de ce qui s'est passé avec un an avant avec la sortie de Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin.
C'est pas une impression, hein.
Vas-y, parle-nous-en un peu.
Non, mais il a fait un procès en fait. On parlait du Buddy Movie Cop tout à l'heure et il a estimé en fait que To Live and Die in LA, enfin Police Fédérale Los Angeles, qui est un autre grand chef-d'œuvre de William Friedkin, était un plagiat en fait de Miami Vice.
Alors stylistique aussi, parce que en fait, c'est un film. Il y a un peu cette logique-là. Je pense que c'est pas. Parce qu'on sait que, si on parle des racines du buddy movie,
French Connection
se pose quand même là. Donc, et Michael Mann n'est pas stupide, il le sait aussi. Mais le truc, c'est que stylistiquement parlant, le film, en fait, et là, c'est une autre borne des années 80. Même si pour le coup, ça a été un bide aussi. C'est un film qui est fascinant à regarder. Police Fédérale Los Angeles, on en a déjà parlé dans des podcasts, mais parce que c'est un film qui sort complètement des canons. De mise en scène, enfin en tout cas de style visuel de Friedkin, et il ressemble à un vrai film des années 80 au point même qu'il en est presque un manifeste aussi, quoi.
Exactement.
Du coup, je pense qu'ils se battent, ils se sont tirés la bourre aussi à travers ça. Je sais pas si c'est aussi spécifique.
En gros, à qui les années 80 appartiennent-elles en gros à l'époque, et c'est évident que Police Fédérale Los Angeles a été un énorme échec, hein, il faut pas l'oublier, mais c'est un film qui dans le milieu cinéphile de l'époque est apparu comme le manifeste de cette décennie, le manifeste visuel. Et effectivement, le gars qui était derrière Miami Vice, oui, il s'est senti insulté. Le manifeste, c'est moi, quoi. Et il veut le prouver avec Sixième Sens, à tel point que il va déjà reprendre l'acteur William Peterson qu'il avait fait tourner dans Le Solitaire, et que on pourrait considérer que William Friedkin ne lui a piqué pour le mettre en tête de Police Fédérale Los Angeles.
Bon, mais après, c'est un petit rôle.
Il va aussi être question de filer le rôle d'Hannibal Lecter à Friedkin lui-même.
Ça aurait été quelque chose.
À mon avis, ça aurait été une erreur, mais bon.
Oui, c'est possible.
Parce que là, il faut préciser, oui, Hannibal Lecter dans les films de Demme et plus tard ceux de Ridley Scott, etc., c'est donc évidemment Anthony Hopkins.
Ouais.
C'est le rôle qu'il a
l'a rendu célèbre.
Vraiment ouais. Une grosse star, quoi, même si c'était un acteur qui tourne déjà à l'époque. Par contre, dans le film de Michael Mann, c'est Brian Cox.
C'est Brian Cox, voilà. Voilà, qui évidemment, contrairement à Ian Friedkin, est un véritable acteur et il peut soutenir une scène aussi difficile que celle du face-à-face qu'il a avec le héros.
Qui a été une scène
héros.
Particulièrement difficile à tourner, on peut peut-être en parler oui. Aussi, parce que ça montre bien la spécificité aussi de Michael Mann, où il était extrêmement précis sur le positionnement de l'acteur par rapport au barreau. En fait,
exactement, parce qu'il voilà, il voulait suggérer dans cette séquence-là qu'on
c'est un enfer à tourner.
Voilà, qu'à un moment donné, on ne sait plus, comme donc il se parle à travers des barreaux, l'idée c'était d'enfermer le héros derrière ces barreaux et qu'à un moment donné on ne sache plus si c'était l'acteur ou le héros qui était emprisonné.
Une figure que sur laquelle Jonathan Demme travaillera aussi de façon en tout cas moins précise, moins
en faisant disparaître les barreaux du coup.
Ouais, ouais, bah ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans cette scène que Julien souligne à juste titre à quel point tout le travail esthétique de Manhunter vise justement à mettre en scène la psychose en fait de son personnage, comme si l'esthétique des années 80, qui dans les années 80 c'est surtout la publicité et le vidéoclip hein, qu'il apporte. Michael Mann, et je pense que c'est un très important, c'est quelqu'un qui à ce moment-là est à la télé, c'est-à-dire qu'il voit ce qui est en train de se passer au niveau du bouleversement esthétique au jour le jour, il voit que le cinéma est à la traîne par rapport à ça, et donc il a vraiment l'intention d'arriver en force pour ramener toute cette culture que la critique va apprendre à détester dans la décennie suivante, ce fameux style clipesque, comme on aime bien le dire à l'époque, de l'amener avec force pour montrer à quel point cette esthétique, elle veut dire quelque chose. Elle raconte, en fait, une psychose qui est celle du monde de ces années-là. Mais c'est quelque chose, encore une fois, que je trouve extrêmement cérébral à tous les sens du terme, dans ce que ça raconte, mais aussi dans la façon avec laquelle ça s'appréhende.
On va aller aussi un peu plus loin dans cette logique-là, parce que c'est quelque chose qui va revenir aussi chez dans le cinéma de Michael Mann, mais qu'il va vraiment le définir aussi. C'est que c'est le premier film où il utilise vraiment aussi des chansons
oui.
À proprement parler dans cette logique d'esthétique-là, en fait, mais donner vraiment en fait aussi une expression en fait de ce que ressentent les personnages. Il y a notamment une histoire d'amour dans le film assez magnétique, assez étrange en fait entre le personnage donc de tueur en série qui est interprété par
Tom Noonan,
merci et
se spécialiser là-dedans jusqu'à la
dans rôles, ouais, voilà dans, jusqu'à la parodie quoi mais bon en même temps il a un physique vraiment inquiétant quoi et le personnage de l'actrice de Joan Allen merci je me dis merci en fait tu vois. Je te regardais
merci
mais
Stéphane,
voilà, merci Stéphane tu vois. Et c'est une histoire d'amour assez étrange, assez magnétique parce que c'est une histoire d'amour en fait elle est aveugle. Mm-hmm. Lui, qui est un tueur en série, se déteste absolument viscéralement de l'intérieur. Quoi. Et surtout
rêve de se voir dans les yeux de ses victimes, en fait.
Voilà, c'est ça, du coup, il tombe amoureux de cet aveugle, jusqu'au point où il l'emmène dans une scène, moi, que je trouve absolument incroyable et hyper casse-gueule, ouais. En fait, où il lui fait ressentir en fait, un animal, un tigre.
Ouais.
Et c'est une scène qui est complètement. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis à la scène, effectivement, d'un point de vue cérébral, pour le coup. Tu te dis, en fait, il va se casser la gueule avec une idée comme ça. Et en fait, elle fonctionne extrêmement bien. Et elle est, en fait, le vecteur de toute une chanson, à un moment donné, plus tard, qui va revenir et qui va les montrer comment ils vont tomber amoureux, comment elle va tomber amoureuse de lui, en fait.
Et stylistiquement aussi, dans Manhunter, c'est aussi, à ma connaissance, la première fois qu'il va vraiment utiliser l'importance des tableaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une référence à William Blake, en l'occurrence
oui.
Aussi, dans le sixième sens. Alors, il faut dire que, parce que Trafic, t'as dit qu'il avait déjà divorcé, mais sa seconde femme, c'est une peintre, en fait. C'est celle avec qui il vit encore aujourd'hui, hein, je crois, d'ailleurs. Ils sont toujours ensemble. Et les tableaux vont occuper une importance, mais alors primordiale, dans tous ces films. C'est une figure qu'on retrouvera, mais c'est quasi systématiquement, en fait, ou à un moment ou à un autre dans le film. Tu auras les personnages principaux qui passeront devant. Alors, ça peut être une fresque murale, ça peut être une grande toile dans Insider, par exemple. Mais il y aura toujours ce travail en fait sur le reflet pictural de la psyché en fait du personnage.
D'accord, tout à fait, et aussi dans l'esthétique du film, puisque les lignes très épurées de Manhunter sont complètement dans l'esthétisme de la
dans un musée quoi.
Voilà, sont complètement dans l'avant-garde photographique et picturale des années 80. L'utilisation d'ailleurs, bon, c'est Dino De Laurentiis qui va lui présenter le chef opérateur Dante Spinotti, qui va ensuite, ils vont faire un couple, qui va, je pense, tout de suite comprendre le côté baroque en fait de la mise en scène qui est recherchée par Michael Mann, en n'hésitant pas à en faire vraiment trop. C'est-à-dire que Le romantisme, il est fait de bleu océanique qui vire au bleu électrique dans certaines séquences d'amour. On a donc, on parlait des barreaux de la prison tout à l'heure, dans ce blanc clinique absolument effrayant et voilà l'esprit torturé du tueur, c'est un vert maladif avec du pourpre qui vient se mêler à ça. Enfin, on a du fluo, enfin toutes les couleurs du spectre y passent.
On peut dire qu'il y a un côté un peu expérimental justement dans la lumière, voilà.
Complètement, aussi au niveau du montage, on a notamment toute cette séquence qui met en scène en fait tout le processus de développement photographique en fait
qui rappelle
etc.
beaucoup Friedkin, moi je trouve hein, quelque ouais. part en fait tu sens qu'il y a un côté encore documentaire là dedans
mais en même temps la rythmique de cette folle, scène elle, c'est une rythmique de vidéoclip en
oui,
fait
c'est
vraiment le gars qui est en train d'amener toutes ces techniques sur grand écran et en fait le caractère manifesto du film, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film donc voilà qu'on peut pas dire aujourd'hui en le regardant que c'est autre chose que les années 80, mais en même temps il va rechercher la source de son inspiration presque dans l'opéra baroque du 18e siècle en fait dans cette façon d'en faire toujours trop dans les faits.
C'est un érudit hein, Michael ouais. Mann, hein. On l'a peut-être pas assez dit hein, mais c'est vraiment un érudit quoi. Ça aussi c'est important parce que...
et le public de l'époque on lui demandait de s'identifier à un personnage qui était pas sympathique, qui était au bord du précipice. Le concept de profiler était totalement inconnu et méconnu.
Oui, voilà, c'est pas un truc, la façon dont ça a été présenté dans des séries télé ouais. bien plus tard ou ce genre de choses, c'était beaucoup plus psychologiquement instable en fait.
Une esthétique qui, si aujourd'hui elle est Internet en a fait une esthétique glorieuse, à l'époque elle est encore très fraîche et très nouvelle et elle choque. Donc en fait, ce film ne pouvait tout simplement pas marcher, je pense, l'année de sa sortie.
Alors, avant de passer peut-être au film suivant, peut-être une petite précision aussi, c'est un film qui a été remaké. Je sais qu'on a envie de l'oublier, mais c'est vrai.
Pourquoi en parler,
alors, On en parle parce que pour les gens qui veulent éventuellement découvrir le film, et du coup, en fait, voir, il y a des gens qui n'ont pas forcément vu le film, s'ils s'intéressent à la carrière de Michael Mann, et en fait, qui a été remaké jusque presque dans des plans, pas similaires, mais dans
le bouquin a été réadapté par Brett Ratner, tu peux le dire. Soyons vulgaires jusqu'au bout, et citons le nom.
Et c'est impressionnant de voir à quel point il a été capable de faire un film qui, à défaut de dire qu'il vieillit plus vite, en fait, s'oublie vraiment fondamentalement, alors que le film de Michael Mann, qui avait été un bide, et pourtant le Brett Ratner a été un succès, le Michael Mann qui a été un bide reste aujourd'hui, en fait, 30 ans après sa sortie. Quoi.
Mais Dino Renzi, c'est plus content du Brett Ratner. Hein. La conférence de presse, il avait reçu un coup de fil et il a crié à tous les journalistes « 100
million dollars !» Non, ça, c'était sur Hannibal.
Non,
mais c'est important, par contre, de préciser que dans la logique de remake, c'était pour le réinscrire dans la franchise à la Anthony Hopkins, donc dans le rôle d'Hannibal Lecter.
En plus jeune.
En plus jeune. C'est vrai qu'il y avait déjà du. Non, il n'y avait pas du rajeunissement numérique, mais il l'avait rajeuni. Il n'y avait pas un truc. Ils l'ont pas fait perdre du poids ou un truc. Enfin, je sais pas. Il y avait
quelque chose qu'on n'a pas. On n'a pas cité parce qu'on voulait pas être grossier. Donc on vient de sortir Brett Ratner. Donc on
peut y aller.
Mais on peut y aller franchement. Mais c'est vrai que du solitaire à Manhunter, il faut pas oublier de parler de Nicolas Winding Refn qui manifestement vu ces deux films là lorsqu'il fait un film comme Drive. Quoi.
Oui, mais bon, le Friedkin aussi, puisqu'apparemment, il essaye de s'inscrire dans le sillage et tout, quoi. Alors voilà, c'est la fin de cette première partie du podcast sur Michael Mann. Donc, on va, la semaine prochaine, enfin, dans 10 jours, on va parler de la suite de sa carrière, à savoir Le Dernier Mohican, It, The Insider, donc Révélation chez nous, et Ali. Merci, messieurs.
Merci.
À la prochaine.
Merci.
Voilà. Et vous pouvez nous suivre, en fait, sur tous les... Merci Alain, merci à la technique. En fait, heureusement que Julien est là pour me rappeler à chaque fois qu'il faut dire
merci Thomas Capot.
Merci Alain, merci à Thomas Capot pour
nos auditeurs.
Pour la technique.
Merci Michael Mann.
Voilà. et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux habituels. Hein. Le mot-clé, c'est Capture Mag. Vous tapez, vous recherchez, et puis en fait, après, vous rajoutez le super réseau social que vous adorez. Donc Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, etc., etc. Et on vous dit à la prochaine.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.